Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
Vers l'infini et au-delà!
Elle est la tribu des dieux, des déesses, des muses, de la beauté. Elle est une quête humaine absolue depuis la nuit des temps, la jeunesse éternelle. Mais qu'est-ce qui caractérise la jeunesse d'un être vivant? Pourquoi la domestication privilégie chez les animaux les traits juvéniles? Et pourquoi certains organismes ne vivent-ils que quelques semaines, quelques jours, quelques heures? Remontons ensemble l'espace d'un battement de paupières vers l'infiniment jeune. Et pour aller puiser à la source de jouvence, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Grand-Colas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste, écologue et systématicien, directeur de recherche CNRS et directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Et Yann Voituron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éco-physiologiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Et pour commencer, abreuvons-nous donc à la source, au filtre de la jouvence éternelle.
Qu'est-ce que c'est ? Ce que vous êtes venu chercher. Un peu de magie dans ce monde obsédé par la science. Un tonique. Une potion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Selon vous, quel est mon âge?
Je ne...
Répondez, n'essayez pas de me flatter.
38? Oh, 28. 3, 23.
Je viens de fêter mes 71 ans. Voilà ce qu'elle fait. Elle arrête le processus de vieillissement de plein fouet et le repousse dans ses retranchements. Buvez cette potion et vous ne vieillirez pas d'un seul jour de plus. Ne la buvez pas et vous continuerez à vous voir pourrir.
Extrait de La mort vous va si bien de Robert Zemeckis en 1992. C'est intéressant parce que lorsqu'on explore la jeunesse, on va explorer la jeunesse mais aussi évidemment la durée de vie des différents organismes vivants. Mais la jeunesse, c'est finalement une sorte de mythe, de fantasme, le filtre de jeunesse éternelle. Et qu'est-ce que c'est véritablement? Qu'est-ce qu'on appelle, Philippe Grand-Colas? Qu'est-ce que c'est que ce concept un peu flou finalement de la jeunesse que l'on applique avant tout à notre espèce humaine?
Mais c'est vrai, vous venez de le dire, notre gros problème c'est que dans ce type de réflexion, nous sommes indécrottablement anthropocentriques. Donc, nous nous référons toujours à notre échelle humaine. Or, finalement, si on considère le développement d'un organisme, quel qu'il soit, à la fois depuis sa naissance jusqu'à sa capacité à se reproduire, puis à son décès, finalement, ce serait plutôt à des constantes astronomiques ou à des contraintes environnementales qu'il faudrait se référer. Finalement, est-ce qu'on se développe plus vite qu'une rotation de la Terre sur elle-même ou qu'une rotation de la Terre autour du Soleil? Est-ce qu'on se développe à l'échelle d'une saison? Est-ce qu'on est capable de vivre au-delà de plusieurs saisons en affrontant éventuellement de mauvaises saisons avec des étapes physiologiques différentes? En fait, c'est, je pense, ça la vraie mesure, finalement, de la capacité à se développer. Et alors, la jeunesse, évidemment, si on la regarde d'un point de vue évolutif, évolutionniste, c'est la capacité, finalement, à grandir avant de se reproduire, puisque, quelque part, le filtre de l'évolution, c'est la capacité à être capable de générer des descendants et que ces descendants survivent, bien sûr, s'il n'y a pas de descendants. Il n'y a pas de transmission de caractère.
Finalement, Yann Voituron, la notion de jeunesse est effectivement quelque chose de très humain, de très anthropocentré, dans le sens où, dans le règne animal, la jeunesse, ça n'a pas vraiment de sens. On parle de caractère juvénile, on distingue des stades larvaires du stade adulte, mais il n'y a pas véritablement de jeunesse chez les animaux.
Oui, exactement. Comme l'a dit Philippe juste avant, on considère effectivement que la durée de vie moyenne d'un organisme devrait s'apparenter un peu comme nous, aux alentours de 60-70 ans. Et puis tout ce qui va vivre plus vite que nous, on va considérer que ça meurt jeune. Puis tout ce qui vit plus longtemps que nous, eh bien, ça va vivre plus longtemps que nous. Maintenant, effectivement, il y a des caractères qui peuvent parfois être juvéniles et rester au stade adulte. C'est ce qu'on appelle la néoténie, où il y a certains organismes qui développent cette capacité-là, qui se caractérise par des traits juvéniles, même à l'état adulte. On retrouve ça, par exemple, chez l'axolote, que certaines personnes ont dans leurs aquariums chez eux, ou le protée, qui sont des amphibiens qui, à l'état adulte, peuvent garder des branchies, comme le font les têtards.
Et ce qui est intéressant avec ce concept de néoténie, Philippe Brancola, c'est que c'est quelque chose qui est notamment favorisé par la domestication et par l'être humain. Comme quoi, c'est vraiment une notion très anthropocentrée, mais dans la domestication notamment des animaux domestiques, des chiens, des chats, mais pas uniquement, eh bien, la sélection a fait qu'on privilégie effectivement ces traits juvéniles qui nous sont plus plaisants pour des raisons d'ailleurs qui restent peut-être à expliquer.
Oui, effectivement. Alors la sélection artificielle, hein, qui finalement a fondé d'ailleurs le concept de sélection naturelle par Charles Darwin, la sélection artificielle, elle est conduite par l'homme. On choisit les descendants des organismes que l'on élève, et bien sûr, on les choisit en fonction de ses centres d'intérêt. Donc si on veut que, par exemple, qu'ils réalisent une production alimentaire, on va les choisir de manière à ce que la production alimentaire soit la meilleure possible. Hein. Et donc, de fait, si finalement, dans la morphologie d'un jeune, il y a des éléments qui sont intéressants pour les considérations humaines en question, on va retenir des individus qui présentent plus ces caractéristiques, et de fait, si ces caractéristiques ont une partie génétiquement héritable, on va les retrouver chez leurs descendants. Alors il y a un autre aspect aussi, c'est que dans nos relations avec les animaux domestiques, en particulier les chats, les chiens, etc., là, il y a un aspect passablement affectif, hein, et qu'on cherche chez eux en fait une relation affective, un attendrissement, hein, qui est suscité chez nous par une morphologie analogue à celle du visage des petits humains, hein, des bébés, un visage camu, une tête ronde, particulièrement volumineuse par rapport au reste du corps, et ce sentiment d'attendrissement que l'on a vis-à-vis de ce genre de morphologie, on le retrouve aussi chez des animaux sauvages, hein, qui sont particulièrement appréciés de ce point de vue-là au plan médiatique, hein, comme le koala par exemple, ou les ours, et puis on le retrouve aussi bien sûr de manière cette fois-ci sélectionnée par l'homme chez des animaux domestiques. On a sélectionné parce que, bien sûr, de ce point de vue-là, ils représentent des compagnons beaucoup plus attendrissants et qui, finalement, satisfont notre ego affectif.
Oui. C'est particulièrement remarquable chez les chiens, donc chez les chiens qui descendent de Canis lupus, donc qui descendent du loup. Encore une fois, on le rappelle, mais normalement, aujourd'hui encore, la plupart des chiens domestiques devraient être capables de pouvoir se reproduire avec un loup sauvage, même si une fois de plus on n'a pas envie de voir l'accouplement d'un loup et d'un Yorkshire, parce qu'on imagine que ça donnerait des choses un peu cul. Mais comment se fait-il, je veux dire, cette néoténie, elle est très claire, elle a des traits caractéristiques particuliers qui ont été sélectionnés au fil du temps. Quels sont-ils, Philippe Grandcola?
Alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer toujours les organismes comme en un seul bloc. Hein. On a tendance à considérer qu'un animal ou une plante est d'un seul bloc, et qu'il est difficile de dissocier les caractères que l'on trouve dans un animal. Or, au cours de l'évolution, au cours du développement d'un organisme, évidemment, ces différents caractères, ils sont sous des déterminismes génétiques, ils se construisent au cours du développement sous l'influence du milieu. Et puis, on a au final un organisme qui est constitué avec ses caractères et qui est capable de se reproduire avec plus ou moins de succès. Et effectivement, si on intervient à un moment donné en sélectionnant des individus qui ont certains déterminismes génétiques qui leur permettent d'avoir un certain type de morphologie, par exemple, on peut imaginer un animal domestique qui a une figure plus camuse, hein, plus un nez épaté, un museau qui n'est pas trop long, on va lui donner effectivement un aspect qui est plus attendrissant pour l'homme. Et si ces caractères-là sont sélectionnés sur plusieurs générations, la race de chien qui en découle finalement aura cette morphologie. Donc finalement, pour autant, elle ne sera pas juvénile. Hein. Les adultes, bien sûr, sont parfaitement capables de se reproduire, mais certains de leurs caractères morphologiques nous rappelleront à nous l'image d'un jeune chiot, hein, qui nous attendrit.
C'est vrai pour les chiens, c'est vrai dans une moindre mesure pour les chats. Il y a une expérience très, très célèbre, Yann Voituron de Belaïev sur les renards dans les années 50, qui a montré qu'en quelques générations seulement, on pouvait tout à fait sélectionner un certain nombre d'individus pour qu'ils présentent très rapidement ces traits juvéniles qui nous sont plus bien, plus familiers, plus confortables. D'ailleurs, pour des raisons qui restent peut-être à expliquer, pourquoi est-ce que nous sommes plus attirés par des animaux qui ont des caractéristiques juvéniles?
Alors c'est vrai que ce que vous soulevez en fait comme question, c'est la question de la variabilité. Au sein des populations naturelles, vous avez des individus qui vont présenter des caractéristiques différentes de morphologie, de physiologie, de comportement. Et en général, quand l'homme sélectionne un certain nombre de traits, il emmène des traits qui sont de la douceur en général. Il va plutôt écarter les animaux agressifs qui sont plus difficiles à gérer au cours du temps. Et donc, on peut prendre comme exemple l'aboiement du chien. Hein. Le chien n'est plus capable de hurler comme les loups. Mais en fait, les louveteaux aboient. Et donc, en fait, le chien a gardé ce caractère juvénile des loups.
Ce qui est d'ailleurs, il y a une hypothèse assez intéressante, Philippe Grandcola, sur cette question. C'est celle selon laquelle l'être humain serait lui-même une forme de singe néoténique, à savoir que il y a une forme de conservation de l'espèce, de traits que l'on pourrait retrouver chez les jeunes chimpanzés qui auraient été perpétués dans les différentes formes d'évolution des hominines.
Alors effectivement, on est une espèce, ce que l'on appelle atriciale, hein, c'est-à-dire que finalement nos jeunes enfants ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls, hein, contrairement par exemple à une jeune antilope ou à un jeune poulain, hein, qui dès la mise bas sont capables de se lever, de se déplacer, etc. Donc on est dans une situation où, quelque part, à notre naissance, nous sommes parfaitement dépendants de nos parents, hein, et donc du soin aux enfants que ceux-ci effectuent. Donc c'est vrai que dans les études évolutionnistes qui ont été réalisés sur l'homme, on se rend compte que c'est un contexte dans lequel, en plus, un certain nombre de traits, finalement, très juvéniles, sont retenus très prématurément dès la naissance, puisqu'il y a ce soin, cette étape de soin qui est indispensable et qui est inscrite dans le comportement de notre espèce.
Il y a beaucoup d'espèces pour qui l'étape juvénile, puisque pour l'être humain, c'est donc jusqu'aux alentours de la vingtaine d'années, un peu avant la puberté, donc entre 14 et 16 ans, par rapport à la durée de vie de l'espèce, c'est une durée particulièrement longue, c'est un cinquième, un peu moins de la vie ou de l'espérance de vie. Il y a beaucoup d'autres espèces où on retrouve cette durée de la juvénilité.
Effectivement, il y a une énorme variation dans le monde vivant sur cette question. Ce que l'on voit très bien, en fait, c'est en particulier chez des organismes dans lesquels les jeunes sont très différents des adultes, hein, puisque là, si on parle de l'espèce humaine, il y a une différence de taille, un peu de morphologie, bien sûr, de comportement, mais globalement, on a à peu près la même apparence. Évidemment, si on parle du papillon et de la chenille, de la mouche et de l'asticot, là, on va avoir des dissemblances considérables. Hein. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, au cours de l'évolution, certaines phases de développement ont été sélectionnées de manière à, par exemple, à exploiter une ressource. Hein, typiquement, une chenille phytophage va manger les feuilles d'une plante sur laquelle l'espèce de papillon est spécialisée. Et cette phase de développement larvaire, en fait, a pour but, quelque part, de maximiser l'utilisation de ressources alimentaires de manière à s'assurer que l'adulte qui va en résulter soit pourvu de tout ce qui est nécessaire pour se reproduire, c'est-à-dire à la fois un corps adulte, des organes reproducteurs soigneusement fournis, parce que chez les insectes la reproduction peut se passer de manière relativement rapide et de manière relativement répétée, et donc une fois le papillon éclos, on a cette fois-ci un focus là et généralement immédiatement sur la reproduction, hein, et donc finalement très souvent chez beaucoup d'insectes, la phase adulte est une phase uniquement reproductrice, et donc on s'aperçoit qu'au cours de l'évolution, il y a eu une sélection pour que chaque phase prenne en charge finalement un élément important pour l'espèce.
Mmh. Yann Voituron, vous souhaitiez réagir?
Oui, pour reprendre ce que disait Philippe, vous posiez la question en fait du soin parental. C'est vrai que cette notion est extrêmement importante pour comprendre la longévité au sein des organismes. Si vous apportez beaucoup de soins à vos petits, c'est que globalement, vous n'allez pas en faire beaucoup et vous les faites assez tardivement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup investi dans votre reproduction en termes d'énergie et le petit vaut cher, entre guillemets. Et donc, vous allez en prendre soin pendant longtemps. Il y a une phase d'apprentissage et donc, du coup, vous allez optimiser les chances qu'il ait de survie et de se reproduire. À l'inverse, si vous pouvez avoir des espèces qui vont très peu miser sur l'adulte, comme vient de le dire Philippe, c'est quelque part une machine à faire des petits. Et donc l'adulte ne compte pas beaucoup. Ce qui va compter, c'est la capacité de reproduction de ces organismes. Et donc plus je vais faire de petits, eh bien, plus je vais maximiser les caractères que je porte par mes gènes.
Yann Voitureon, la question qui se pose justement en termes de stratégie évolutive, c'est que on a le sentiment, alors on va plutôt rester, on parlera du domaine des insectes dans la deuxième partie de l'émission, mais en tout cas chez les vertébrés, cette phase juvénile, c'est une phase fragile de l'évolution, c'est une phase pré-reproductive, donc finalement peu intéressante en termes d'efficacité à l'échelle de l'espèce, on a le sentiment que si on regarde ça d'un strict point de vue évolutif, cette phase-là devrait être normalement la plus restreinte, la plus courte possible entre la phase de l'enfance ou en tout cas de la naissance et des quelques jours ou des quelques semaines de naissance jusqu'à la phase reproductive. Finalement, quel est l'intérêt de cette phase de juvénilité en termes évolutifs? Je parle encore une fois chez les vertébrés.
La première phase, quand l'organisme naît, la première chose qu'il a à faire, c'est la phase de croissance, avant sa maturité sexuelle. Chez les vertébrés, on a toutes les stratégies. On peut avoir des animaux qui vont encore avoir une croissance derrière la maturité sexuelle, et d'autres qui vont complètement s'arrêter, un petit peu comme l'homme. Mais donc cette première phase de croissance, elle est importante parce qu'elle va définir la taille adulte. La rapidité de la croissance vont définir la taille adulte de l'organisme. Et en fait, la taille va définir c'est un paramètre important pour la longévité. En général, plus les animaux sont de grande taille, plus ils vont être longévifs. Et en général, ça va aussi avec un âge à la première reproduction qui est assez tardif.
Philippe Grandcola, sur cette question, effectivement, chez les vertébrés, chez les mammifères particulièrement, plus la taille grande, plus la portée est petite, donc finalement plus la phase juvénile est importante, ça se retrouve à tous les niveaux, c'est une sorte de règle absolue.
Alors on retrouve des analogies, hein. C'est difficile évidemment de comparer un éléphant, un cheval ou une abeille ou une mouche. Hein.
Des vertébrés.
Voilà, il y a beaucoup d'autres différences. Oui. Alors dans les vertébrés, en fait, même à l'intérieur des vertébrés, on trouve un peu de disparité. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'un organisme, quand il évolue, il évolue à partir d'un ancêtre. Et par définition, entre un ancêtre et un descendant proche, il n'y a pas trop de différence. Il y a quelques modifications qui peuvent faire l'objet éventuellement d'une sélection naturelle ou artificielle, si il s'agit d'une espèce domestique, et donc fatalement, il y a un terme un peu aujourd'hui qui est un peu décrié, mais qui est assez signifiant, hein. On peut parler d'une espèce de plan de base qu'on retrouve en gros chez un certain nombre d'apparentés, par exemple chez les vertébrés. Donc c'est quelque chose, effectivement, c'est une relation assez générale, hein, avec derrière, bien sûr, des contraintes, je dirais presque biophysiques, hein, c'est-à-dire que malgré des taux de division cellulaire ou des taux de métabolisme extraordinaires, on peut pas bâtir un organisme colossal en un temps de quelques secondes, et voilà, et inversement. Même avec toutes les étapes de quiescence possibles et imaginables, on aurait du mal à attendre des années pour bâtir un organisme de toute petite taille. Voilà, à partir d'une cellule et d'un embryon qui va être évidemment à chaque fois de taille relativement similaire. Quoi.
Mmh. Yann Voitureon, vous vouliez réagir?
Oui, vous avez un cas assez significatif à ce propos. Si on prend par exemple la grenouille rousse, Rana temporaria, qui vit en France, on a dans certaines populations des stratégies qui sont très très différentes et qui associent croissance et longévité. Vous avez certains individus qui vont avoir une croissance extrêmement rapide et qui vont devenir vraiment très très grands, par quasiment le double des autres grenouilles. Et donc elles vont se reproduire une seule fois, elles vont produire énormément d'œufs et elles vont mourir dans l'année. À l'inverse, vous avez au sein de la même population, vous pouvez avoir des organismes qui vont avoir une croissance un peu plus lente, ils vont avoir une croissance de meilleure qualité. La grenouille adulte est un peu plus petite, mais elle va survivre quelques années et elle va pondre des œufs à chaque saison. Si on compte le nombre d'œufs total pondus, eh ben en fait, il est le même entre les deux morphes. Mais on voit bien cette relation entre longévité, croissance et âge à la première reproduction.
Et puis l'autre étape importante, c'est que cette période juvénile, elle est aussi liée, et encore une fois, on reste pour le moment dans le domaine des vertébrés, ou en tout cas on parlera des insectes tout à l'heure, mais elle est aussi liée pour partie à l'apprentissage. Et en fonction du degré d'apprentissage des différentes espèces, cette phase juvénile peut être plus ou moins importante en fonction de la nécessité d'acquérir un certain nombre de traits nécessaires via la survie, Philippe Grand-Colas.
Oui, effectivement. Hein, en fait, même si les espèces dont on parle ne sont pas forcément sociales au sens le plus strict du terme, même s'il n'y a pas une vie collective, par exemple, entre un certain nombre d'individus reproducteurs hein, qui partagent des tâches, comme par exemple c'est le cas du râteau pnu hein, chez les mammifères, même quand on est dans un système où finalement on a des groupes relativement lâches, voire des individus qui vivent solitaire ou en couple, même dans ces cas-là, il y a forcément une transmission culturelle entre les parents et les jeunes. Et effectivement, cette transmission culturelle, là encore, même si ce sont des phénomènes qui peuvent avoir des cinétiques très différentes, ça prend quand même un temps minimal hein, et qui est absolument indispensable à la réalisation d'un adulte capable de se nourrir, de se reproduire dans le milieu naturel. Voilà ce que l'on constate dans l'espèce humaine. Et voilà, quand on est focalisé sur l'éducation de ses enfants, bien sûr, ce n'est rien d'autre que la réalisation de ce que l'on voit également chez la plupart des mammifères dans le monde vivant.
Hein. Yann Voituron.
Oui, ce que dit Philippe est absolument vrai. Il y a parmi les animaux, les invertébrés, vous avez les céphalopodes qui sont complètement à l'inverse, où vous avez des organismes qui ont, on leur donne un organe qui est l'encéphale, hein, c'est le seul autre clade à qui on donne le mot d'encéphale, avec un regroupement des ganglions. Ce sont des animaux qui ont un comportement extrêmement complexe, de la mémorisation, de l'apprentissage. Et en fait, eux, de par leur reproduction, ne peuvent pas donner leur acquis à leur descendance. Et ce qui fait que les céphalopodes, les pieuvres, les seiches doivent réapprendre à chaque génération l'ensemble des contraintes environnementales, etc., etc. Alors que c'est un cas assez rare, mais qui montre bien que c'est pas général le fait qu'on puisse passer un certain nombre d'informations, même si on a des comportements complexes.
Et puis un mot encore de relativisation de cette notion de juvénilité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Grand-Colas, et qui est très juste, c'est-à-dire que nous jaugeons tout à l'aune de notre propre longévité et de notre calendaire solaire et annuel, mais en fait la notion de durée est évidemment absolument relative à différentes espèces. On peut penser que effectivement ces juvénilités s'adaptent quand par exemple finalement le référent est une flaque d'eau ou un fruit pourrissant. Là on rentre dans le domaine insecte, mais ça peut marcher aussi pour certains petits oiseaux par rapport à leur référentiel écosystémique.
Tout à fait, tout à fait. En fait, le vrai référentiel, hein, ce sont les rythmes de la nature, donc les rythmes qui sont astronomiques, hein, rythmes annuels, saisonniers, et puis aussi même les rythmes, effectivement, de certains événements écologiques, hein, comme vous le disiez, une flaque d'eau. Si on se reproduit dans une flaque d'eau avec des larves qui sont aquatiques, évidemment, on va dépendre de la permanence de ce type de milieu, et on devra effectuer tout son développement larvaire dans un temps de maintien de cette structure. Hein. Et ça pose un autre gros problème, qui est le problème de ce que les scientifiques appellent, c'est un anglicisme, mais la prédictibilité de ces structures. C'est-à-dire qu'on peut avoir des structures qui sont parfaitement prédictibles. Par exemple, le rythme saisonnier, il est astronomique, hein, il va pas varier, même si le climat, lui, varie et il change en ce moment en particulier.
Et on en parlera.
Voilà. Mais il y a d'autres structures dans lesquelles il n'y a pas cet aspect de prédictibilité. Une flaque d'eau, certes, elle peut être liée à des pluies, donc à une saison plus pluvieuse, mais au-delà de ça, son existence va dépendre d'un grand nombre de paramètres. Hein, la structure du substrat, la météo et la température de l'endroit. Donc pour un certain nombre d'espèces, le but c'est d'arriver à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, et de conserver une sorte de variabilité génétique et de capacité à faire avec un certain nombre de situations. Et il y a même un type de sélection qui a été nommé de ce point de vue-là, avec une formulation anglaise, hein, qui se rapproche des théories économiques, qu'on appelle « bet edging », hein, et donc finalement, on a des descendants qui sont capables de faire avec un certain nombre de situations, des flaques par exemple plus ou moins éphémères, ben on arrive à ce qu'il y a un certain nombre au final de descendants qui survivent malgré tout, et si ces descendants conservent dans leur patrimoine la capacité à faire avec ce nombre de situations différentes, ils arrivent effectivement à transmettre leurs caractéristiques par ailleurs. Voilà.
Puisque nous réfléchissons et nous explorons les frontières de la jeunesse ou de la juvénilité dans le monde animal, nous allons voir, et bien précisément, changer de dimension calendaire et regarder quelles sont les espèces chez qui, et bien, la jeunesse est la plus courte, l'espérance de vie est la plus courte. Quels sont ces organismes qui vivent, et bien, parfois l'espace du battement d'une paupière dans quelques instants.
watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Alphaville, Forever Young dans Infiniment, puisque c'est l'infini, l'extrême que nous explorons aujourd'hui, l'extrême jeunesse, l'extrême juvénilité dans le monde animal, en compagnie de Philippe Grandcola, qui est entomologiste, écologue et systématicien, directeur de recherche CNRS et directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, et Yann Voituron, qui est écophysiologiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1 au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Si on s'intéresse donc à la longévité maintenant, c'est-à-dire à ces organismes qui vivent le moins longtemps, qui restent à l'état juvénile, eh bien le plus longtemps par rapport à leur durée de vie globale, la taille compte globalement. Plus les animaux sont petits, plus leur durée de vie est limitée, et notamment chez les insectes, comme en atteste notre archive du jour. Nous sommes en 1964.
Le papillon adulte a une existence relativement brève, et c'est pendant cette période très courte qu'il doit assurer sa descendance. À cet égard, on distingue deux groupes de papillons. Chez les uns, les femelles naissent avec des œufs à peine développés. Ces papillons vivront souvent pendant plusieurs mois en se nourrissant abondamment, ce qui aura pour effet de conduire leurs œufs à maturité. Chez d'autres espèces, les femelles naissent toutes prêtes à se reproduire. Dans ce cas, les pièces buccales sont atrophiées et les adultes ne prennent aucune nourriture. Leur durée de vie varie alors d'une quinzaine de jours pour les bombyx à 24 heures seulement pour les psychides.
Daniel Dornier, dans l'heure de la culture française, donc en juillet 1964. Effectivement, on l'entendait bien, et c'est pour ça que je retenais un peu les chevaux dans la première partie. Lorsqu'on s'intéresse aux insectes, Philippe Grandcola, la question de la juvénilité n'a plus beaucoup de sens parce que les cycles de vie sont radicalement différents.
Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement, on va dire, deux grands types de développement hein, que chacun d'entre nous connaît peu ou prou, finalement. Il y a ces cycles de développement avec une sorte de métamorphose, donc le papillon qui se métamorphose et devient une mouche, la chenille, l'asticot, une mouche, la chenille, un papillon. Et puis, on a d'autres cycles de développement avec des mues successives, comme on le trouve, par exemple, chez le grillon ou chez la blatte, hein, où on va avoir une sorte de de modèle réduit de l'adulte, mais qui n'est pas pourvu évidemment des organes adultes, y compris des organes de reproduction, et qui se développe petit à petit et qui devient effectivement à la fin un adulte capable de se reproduire. Alors cela dit, effectivement, dans tous les cas, en règle générale, on a un équilibre entre la partie du temps qui est dite larvaire et puis la partie qui est adulte, qui va varier selon en fait les caractéristiques biologiques, écologiques des organismes. Donc quelquefois, un très long temps passé sur une ressource à acquérir la capacité finalement à construire un corps puis à se reproduire, puis après un très court temps adulte pendant lequel on va effectivement tout miser sur la reproduction en quelques jours ou quelques heures, même parfois, quelques fois. Voilà. Et puis d'autres fois où on est dans des situations un peu plus équilibrées, où finalement la larve profite effectivement d'une acquisition de ressources d'un milieu particulier, mais néanmoins l'adulte continue à effectuer cette acquisition de ressources, et puis finalement au final intervient des étapes de reproduction, d'ailleurs pas forcément qu'une, hein, mais quelquefois plusieurs. Donc on a un éventail évidemment de situations très importantes. Il y a plus d'un million d'espèces d'insectes, 400 millions d'années d'évolution, sans parler des autres arthropodes, araignées, mille pattes, scorpions, etc. Il y a une énorme diversité au sein de ce groupe, mais c'est vrai qu'on a quand même toujours un peu ce découpage que je viens de citer en tête. Et effectivement, on a de fait en tête des exemples célèbres, hein, comme celui de l'éphémère, qui va passer un temps équivalent à plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un milieu aquatique à l'état larvaire, et puis quelques heures, quelques jours uniquement de vie à l'âge adulte.
Yann Voituron.
Oui, il faut bien comprendre en fait aussi les soubassements un peu de ce genre de stratégie. Et en fait, on peut regarder d'un point de vue énergétique comment ça se passe. Parmi les organismes, tous les organismes, en fait, la longévité va dépendre du métabolisme. Plus vous avez un métabolisme intense, eh bien plus vous allez avoir une durée de vie courte. Et donc chez les insectes, typiquement, les premiers stades peuvent être dans des états assez faibles en termes d'énergie. Vous déplacez assez peu, vous ne faites que manger et grandir. À l'inverse, quand vous êtes imago, quand vous êtes adulte, eh bien vous avez tout un tas de choses à faire. Vous devez vous déplacer, trouver le partenaire sexuel, faire les œufs. Tout ça coûte énormément d'énergie. Et donc forcément, vous allez avoir une longévité beaucoup plus affectée puisque vous utilisez beaucoup d'énergie.
Mais alors justement, Yann Voituron, en termes stricto sensu évolutifs, comment expliquer finalement ces formes de vie qui consacrent autant de temps à des formes juvéniles, sinon larvaires ou nymphaires, qui sont malgré tout des stades très vulnérables, avec peu d'activité, essentiellement de l'emmagasinement d'énergie. Comment est-ce que les stratégies évolutives s'expliquent dans ce sens-là ?
Vous avez plein de réponses. Hein. Les arthropodes ont inventé plein de stratégies pour ne pas se faire manger leur premier stade de développement. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il ne faut pas manger de chenilles. Et elles ont tous les arguments pour ne pas être mangées. Donc même si elles sont lentes et très visibles, eh bien en fait elles sont protégées parce qu'elles ont mis des structures physiques pour être piquantes, urticantes. Elles peuvent avoir un peu de venin. Et donc elles sont assez peu mangées. Et donc du coup, vous pouvez tranquillement acquérir de l'énergie, vous transformer, passer les stades un à un, et puis arriver au stade adulte où là, vous avez toute la reproduction à faire.
Philippe Brancolat sur cette question.
Ben effectivement, il y a beaucoup de modes de vie différents à la fois chez les larves et chez les adultes. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir finalement le rapport de ces différents modes de vie, de leur durée et de leurs caractéristiques par rapport à l'environnement, hein, puisqu'on se rend compte évidemment qu'il y a un ajustement, c'est le phénomène de l'adaptation au sens évolutionniste. Hein, on est adapté quand il y a un ajustement au milieu naturel qui, évidemment, plus on est ajusté, alors ça peut ressembler à une tautologie si on l'exprime mal, plus on est adapté, plus on a de chances d'avoir des descendants, et donc plus on est capable de transmettre ce type de comportement. Et effectivement, à partir du moment où une espèce d'insecte a une phase larvaire qui va pouvoir profiter par exemple d'une saison favorable, hein, une saison c'est un phénomène astronomique, pendant lequel il y a une végétation qui est bien présente et bien développée, effectivement il y a une sélection forte pour que cette phase de développement et d'acquisition de ressources soit phasée sur cette saison, hein, et puis que durant le temps restant, une fois la métamorphose advenue, en tant qu'adulte, là, on peut aller directement vers la reproduction. Quand on est sur des rythmes astronomiques un peu différents, si on est par exemple dans une région intertropicale, il y a bien sûr une saisonnalité, mais elle va être souvent quand même un peu plus tamponnée. Hein. Et donc, pendant la phase favorable, finalement, on va être un peu plus longue. Et là, on a des espèces qui vont être capables de vivre à travers plusieurs saisons et donc d'avoir une capacité, éventuellement avoir une petite quiescence physiologique si il y a un moment peu trop secs, par exemple, ou un peu trop frais, mais qui vont être capables de passer à travers les saisons et d'acquérir finalement cette capacité à se reproduire un peu plus tardivement. Évidemment, dans chaque endroit, on a des échappatoires hein, à ce type de situation. On peut avoir aussi, par exemple, en climat tempéré, en France métropolitaine, par exemple, on a le grillon des bois, Anemobius sylvestris, qui a des diaposes à l'état embryonnaire et à l'état larvaire. Donc là, c'est une capacité de l'organisme, en se basant sur des repères astronomiques, c'est-à-dire la longueur du jour, à se mettre dans une espèce de quiescence physiologique, hein, et être capable de passer la mauvaise saison et de continuer son développement une fois que cette mauvaise saison est terminée. Effectivement, l'évolution a permis aux organismes à chaque fois de se diversifier, y compris dans leur mode de développement.
Si on remonte un peu en échelle et qu'on revient aux vertébrés et aux mammifères, il y a une notion qui est relativement opérante, mais avec ses limites, Yann Voituron. Cette notion, c'est ce qu'on appelle le rate of living, c'est-à-dire que, finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, plus un animal est petit, plus son espérance et sa durée de vie est courte et plus sa dépense d'énergie est intense par rapport à son volume.
Oui, c'est ça. C'est en écologie, on a développé ce rythme de la vie qui est en fait un ensemble de caractéristiques que les organismes montrent. Alors anciennement, ça s'ancrait dans des travaux de Pianca qui s'appelaient les stratégies R et K et qui avec des animaux qui étaient, quand on les appelait R, c'était des animaux de petite taille avec une vie extrêmement rapide. À l'inverse, des animaux avec une stratégie K, c'était des animaux de grande taille qui faisaient du soin parental, qui avaient un métabolisme assez lent. Et puis, en fait, on a transformé au fur et à mesure ce continuum entre petit R et grand K, et on appelle ça maintenant le pace of life, le rythme de la vie, où en fait, en plus de ces traits que je vous ai décrits juste avant, dont la longévité fait partie, eh ben, ça s'accompagne de comportements assez spécifiques. En général, quand vous avez un pace of life lent, quand vous avez un rythme de vie lent, vous êtes plutôt timide, vous n'allez pas être audacieux, hein, vous allez prendre assez peu de risques. Et en termes de métabolisme, ça veut dire que vous allez avoir un métabolisme plus lent, vous allez avoir moins de radicaux libres qui sont produits. Hein, vous savez, les radicaux libres, c'est les molécules qui font vieillir. Et donc le fait est que quand j'ai un rythme de vie lent, ben, j'ai moins de production de ces radicaux libres. À l'inverse, quand j'ai un rythme de vie rapide, je produis beaucoup de ces radicaux libres. Du coup, j'ai une sénescence qui est assez rapide et donc je vais mourir assez rapidement.
On parlait hier dans l'émission Inverse qui explorait la sénescence du nombre de battements de cœur fixes pour notamment les mammifères et certains des vertébrés. Sur les plus petits animaux, ou en tout cas sur les plus petits mammifères, la musaraigne alpine par exemple, on arrive, Philippe Grandcola, à 1200 battements par minute. C'est-à-dire que c'est vraiment des organismes qui brûlent tout d'un coup et qui vivent en général moins de 2 ans, quelques mois à peine.
Oui, tout à fait, c'est assez extraordinaire. Hein. On a effectivement... Alors, il y a malgré tout des limites biophysiques. Hein. Bien sûr, un muscle ne peut pas se contracter à des fréquences, malgré tout, au-delà d'un certain rythme. Mais effectivement, on a des exemples extrêmes de ce point de vue-là. Alors, chez les mammifères en particulier, qui ont un métabolisme qui prend en compte le maintien de la température corporelle, ce qui représente quand même à la fois un gros avantage, hein, parce qu'on peut être dans des environnements adverses hein, tout en survivant, en étant actif, mais en même temps ça représente une dépense d'énergie. Là, ça devient un challenge au plan énergétique, comme le disait Yann Voituron il y a quelques minutes. Chez des insectes, évidemment, on est dans une situation un peu différente, puisque là, ils ne sont pas par définition capables de maintenir leur température corporelle. Ils sont dépendants, finalement très dépendants du naturel, et là ils sont obligés de s'ajuster, donc effectivement il peut y avoir une vitesse de développement, un rythme de vie qui est extraordinaire pour s'ajuster à une saison très courte, hein, et là on va aller vers à la fois une forte activité métabolique et puis souvent une très petite taille, parce que bon, dans un temps très court on n'est pas capable de faire plus.
Yann Voituron.
Oui, pour reprendre, je rebascule sur les endothermes et les rongeurs en particulier. Il faut imaginer en fait qu'être de toute petite taille pour un endotherme, hein, qui sont les mammifères et les oiseaux, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, plus vous êtes petit, plus votre métabolisme va être élevé, d'où les 1200 battements en minute chez la musaraigne. Mais il faut se rendre compte que mathématiquement, si on calcule la relation entre le métabolisme et la taille, en fait, des endothermes de 3 grammes, eh bien en fait, auraient un métabolisme infini, en théorie. Oui. Donc il est impossible d'être en dessous de 3 grammes pour un adulte chez un endotherme.
Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque on arrive dans les dernières minutes de cette émission. On pourrait préciser le fait qu'il y a évidemment des exceptions à cette règle du pace of life et que le froid, notamment, ou les environnements et les écosystèmes plus ou moins froids permettent de préserver un peu plus et d'allonger un peu la durée des organismes vivants. Et pour les endothermes, en l'occurrence, Yann Voituron, aujourd'hui, le réchauffement climatique aurait tendance à réduire la taille des endothermes et donc à raccourcir également la vie des ectothermes, c'est-à-dire des animaux à sang froid, puisque tout se réchauffe et donc eh bien, le froid ne protège plus.
Oui, tout à fait. Il y a de jolis articles qui ont montré que à travers plusieurs clades, hein, beaucoup de clades différents, on voit une sélection des petites tailles avec le réchauffement climatique, ce qui en fait accélère le rythme de vie des animaux. Donc ils vont être de plus petite taille, se reproduire de plus en plus vite, faire de plus en plus de petits. Et donc ça, c'est un trait qui est très sélectionné en ce moment avec le réchauffement climatique.
Philippe Grandcola, d'ailleurs, vous en avez fait mention dans le rapport de l'IPBES auquel vous avez contribué.
Oui, effectivement, il y a des problèmes liés à cela, dans la mesure où certes, 3 milliards d'êtres humains dépendent toujours, et c'est heureux, de plus d'une cinquantaine de milliers d'espèces dites sauvages, donc non domestiques. Hein. Et parmi ces espèces sauvages, évidemment, beaucoup d'entre elles sont affectées par la modification du milieu, au premier chef, le changement climatique. Et de fait, il peut y avoir des difficultés pour les populations humaines qui en dépendent dans le futur à continuer à utiliser ces espèces comme des ressources, hein, puisqu'il y aura un déphasage, si je puis dire, hein, et puis certaines de ces espèces seront en fort déclin, et donc leurs populations ne seront plus suffisamment nombreuses pour permettre à l'espèce humaine de les utiliser.
C'est aussi vrai pour les populations d'insectes. Le réchauffement climatique a tendance à accélérer les cycles et donc à perturber la reproduction et la perpétuation des différents espèces d'insectes. On sait qu'elles sont en très très fort déclin. Ça a été dit et annoncé, 80% de diminution des populations d'insectes en plus de 30 ans, notamment en Europe occidentale.
Oui, alors c'est un phénomène très compliqué parce qu'il y a effectivement des espèces. On va vers effectivement une accélération du développement si on augmente la température, mais par exemple si on a un stress en eau à certaines saisons, on va aussi avoir au contraire un ralentissement, voire une incapacité à se développer. Et puis il y a aussi les questions de déphasage. Hein. Beaucoup d'insectes dépendent de ressources alimentaires, par exemple végétales. Et si une plante réagit de manière différente à une modification climatique, si une plante nourricière réagit différemment de l'espèce d'insecte qui s'en nourrit, là il peut y avoir un gros déphasage. Par exemple, si on veut butiner les fleurs d'une plante et que la floraison de la plante se déplace beaucoup par rapport à la capacité à se développer de l'insecte butineur, là il n'y a plus d'interaction possible entre les deux organismes. Hein. Donc on est vraiment devant un phénomène très complexe, mais évidemment qui a des conséquences la plupart du temps négatives.
Et il est déjà temps de revenir à l'âge de raison et de reprendre le cours de nos vies. Merci beaucoup Philippe Grandcola, on peut vous lire dans Le Sourire du Pangolin aux éditions du CNRS. Merci également à Yann Voituron d'être venu nous parler de la juvénilité des différentes espèces animales. Infiniment, c'est Mariam Ibrahim, Alexandre Morales, Olivier Bétard et Jordan Fuentes. Le week-end prochain, pour les deux derniers épisodes de cette deuxième saison d'Infiniment, nous explorerons le foisonnement du vivant, ces endroits où la vie apparaît, pullule et prospère, et nous nous enfoncerons dans les méandres de la mort jusqu'au tout premier fossile, vers l'infiniment vivant et l'infiniment mort, et au-delà.